les machines avant couplées.
RFI, grand reportage.
Garde à vous.
Non, repos. Bonjour à tous. On a moins d'activité qu'hier, profitez-en pour vous reposer un petit peu. Parce qu'à partir de demain, ça redémarre et jusqu'à l'escale, ça va bien driller, bien envoyer. Profitez de cette journée un peu plus calme, à l'exception du secteur avia qui a du taf, pour vous remettre un peu dedans. Voilà, sinon on continue comme ça, pour le moment il y a que du positif qui remonte. Pour l'instant, garde à vous. Bonne journée à tous, rompez les rangs.
125 mètres de long, 170 marins à bord, indicatif F713. Depuis 3 mois, cette frégate légère furtive de la Marine nationale patrouille dans le très stratégique canal de Syrie. Frégate Aconite, l'œil de la France en Méditerranée orientale, c'est un grand reportage de Franck Alexandre.
4 puissants moteurs diesel propulsent les 3600 tonnes de l'Aconite à plus de 20 nœuds.
De PC Sécurité pour exercice urgence hélicoptère. L'équipe de renfort TQ-Avia rallie le hangar et la coursive Hôtel 0114.
Nous pénétrons dans la coursive centrale, long couloir entrecoupé de portes étanches, distribuant les postes où s'affairent les marins. La combinaison bleue unifugée, siglée Marine nationale et de rigueur, le Pacha ne fait pas exception. Nicolas Duchesnay, capitaine de frégate, commandant de l'Aconite, nous accueille, sourire aux lèvres.
Là, on est sur la coursive principale, donc c'est le pont zéro. Moi, je passe le bateau en inspection de tranche. Pendant tout mon commandement, je vais dans chaque local avec ma lampe torche pour vérifier que le bateau est bien entretenu. Je vérifie qu'il n'y a pas d'avarie ou de problème de corrosion. Le bateau, au-delà de l'avoir appris, je l'ai regardé à quatre pattes avec ma lampe.
Et là, on va descendre à la prochaine échappée.
Un bâtiment de guerre, c'est toujours brut de fonderie.
Oui, oui, c'est fait pour justement pour le combat. Donc, c'est un peu dépouillé. Hein. Tout est apparent parce que si on doit réparer, nous, on ne fait pas de la déco. Hein. On a besoin que tout soit accessible.
Carré des officiers, quelques décorations. Pourtant, l'Aconite, 4e navire de la marine portant ce nom, est l'un des plus décorés. Compagnon de la Libération, Croix de Guerre, le bateau est dépositaire de la glorieuse histoire des Français libres.
L'Aconite, c'est un bateau qui a été prêté par les Britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Aconite s'est particulièrement distingué le 11 mars 1943 en coulant 2 sous-marins allemands en moins de 12 heures. Le deuxième en les prenant. Et au cas officier, on a un morceau de l'étrave de l'Aconite qu'on a gardé en mémoire. Le général de Gaulle a décidé qu'il y aurait toujours un bateau qui s'appelle l'Aconite dans la marine suite à cet événement.
Fermeture des portes et panneaux étanches des tranches India à Lima.
Lancée il y a plus de 20 ans, l'Aconite est une frégate légère furtive de la classe Lafayette. Des flancs lisses, masquant des missiles antinavires Exocet, et au sommet, des radars proéminents. À bord, hormis sur la passerelle, on ne voit pas la mer. Une révolution, souffle le commandant Duchesnay.
Les frégates Lafayette sont des bateaux qui ont créé une vraie rupture dans l'architecture navale. C'est un bateau qui a un peu stupéfait toute une génération quand ils sont sortis. C'est pour ça d'ailleurs que c'était le bateau vedette de GoldenEye dans le port de Monaco avec un tigre. Aujourd'hui, tous les bateaux qui sont construits dans le monde ont un peu copié ce design.
L'Aconite, une référence en termes de discrétion, insiste l'enseigne de vaisseau Régis. Ce jeune officier, sorti il y a peu de l'école navale, a la main sur toute la partie transmission du navire.
L'ancienne génération de bateaux était conçue pour privilégier la fonction par-dessus la forme. Les ingénieurs qui ont conçu les FLF ont dit on va faire un bateau qui est intégralement conçu autour de ce concept de surface équivalente radar. Donc on va faire primer la forme sur la fonction cette fois-ci pour que les ondes radar soient le moins possible réfléchies sur le bateau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les FLF et tous les bâtiments modernes de guerre se retrouvent avec des surfaces équivalentes radar, des échos sur un scope radar qui font la taille de l'écho d'un bâtiment de pêche qui fait un cinquième de leur volume parce qu'il n'y a plus que très peu d'éléments qui continuent à refléter les ondes.
Seule la cabine du commandant possède un hublot, alors pour observer la Méditerranée, il faut emprunter les échappées et grimper au sommet du navire sur la passerelle.
La passerelle, c'est là où on dirige la navigation, sous les ordres d'un chef de quart et d'une équipe avec un adjoint de quart, un barreur.
Les côtes turques, chypriotes et syriennes ne sont qu'à quelques milles. Le canal de Syrie est une petite mer néanmoins hautement stratégique, raison pour laquelle, souligne le commandant Nicolas Duchesnay, la marine française y assure une présence quasi permanente.
C'est un terrain que l'Aconite connaît bien puisqu'on a enchaîné pas mal de déploiements dans cette zone. C'est ma deuxième mission en un an et donc on commence notre 7e mois de mission en Méditerranée orientale. Donc c'est une zone qui n'est pas forcément très grande, mais qui a la conjonction de beaucoup d'intérêts, d'enjeux, de grandes civilisations, de crises aussi, la Syrie, le Liban, l'Union européenne qui est présente avec Chypre, la Turquie au nord, qui est un partenaire de l'OTAN, avec qui on a parfois des différends. Donc c'est une zone qui n'est pas très grande, mais qui concentre beaucoup d'acteurs. J'aime bien dire que j'ai pas d'ennemis particuliers, quoi. Je pense pas que la France en ait non plus. On a des compétiteurs stratégiques, on a des gens qui essayent de montrer leurs muscles et de vouloir dénier un peu aux autres des accès ou une capacité à opérer. La France est attachée à la liberté de navigation. C'est homme libre, toujours tu chériras la mer, hein, disait Baudelaire. Hein, et c'est quelque chose auquel on est profondément attaché. Et si on n'exerce pas ce droit de liberté de navigation, d'occupation des espaces, et ben de fait, certains nous interdiront ces accès plus tard. Donc il est important de pouvoir montrer qu'en haute mer, on peut s'entraîner n'importe où.
À tous de commandants, nous allons débuter la séquence de largage des cibles.
Premier entraînement de la journée, la lutte contre une menace asymétrique. Des bouées sont larguées. Au centre de la passerelle, le commandant, gilet pare-balles sur les épaules et casque lourd sur la tête.
Regarde ce face, il marque 86, pouce blanc.
Capitaine de frégate Laurence, commandant adjoint de la CONI.
Menace asymétrique, hein, c'est tout ce qui est embarcation rapide, des choses comme ça. C'est de la lutte entre guillemets non conventionnelle, hein, même si ça fait maintenant plusieurs années qu'on s'entraîne à ça. C'est des dispositifs qu'on met en place, par exemple, pour franchir le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, ou pour aller s'accoster dans un port dont on sait qu'il n'est pas très sûr.
DF 12-7, 20 mm tout horizon.
On est à plus de 60 nautiques des côtes syriennes, israéliennes, etc. On est dans une zone d'exercice qui a été réservée exprès pour pouvoir effectuer des tirs. Ça, c'est des procédures OTAN, c'est de la coordination en fait.
Danger asymétrique, blanc, tir sur ordre.
Blanc sur ordre.
Blanc sur ordre.
Commandant de paix pour contact.
Commandant, le commandant fort et clair. Donc à tous les commandants, nous passons en danger asymétrique jaune, tir sur ordre.
De chaque côté du bâtiment, deux canons de 20 mm, derrière l'un d'eux, le quartier maître Bastien, prêt à affronter tout type de menace.
Ça peut être de la petite embarcation jusqu'à une grosse piste de surface, avec un bateau de guerre ou... ou autre. On peut également tirer sur des avions, on peut faire de l'antimissile avec. Et c'est une arme qui a une cadence assez importante, donc qui nous permettra d'effectuer des tirs plutôt précis.
Non, bâton, bâtiment.
Reçu.
L'approximation n'est pas permise quand les armes parlent. Il faut de la rigueur, commandant Nicolas Duchesnay.
Le bateau en face, quand on lui dit « mes armes sont pointées sur vous », les armes sont effectivement pointées sur lui. Que quand on commence à l'appeler, qu'on envoie des signaux sonores, les signaux sonores ils soient bien synchronisés avec ce que je vois. Donc en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent réagir dans le même tempo. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment, vraiment s'entraîner de manière... là, c'est exercice de tir, on le fait... Je ne vais pas dire qu'on le fait toutes les semaines, mais on le fait pas loin. C'est quelque chose où chacun doit savoir exactement quelle est sa place, à quel moment il doit réagir, comment il doit le faire. Et c'est ce qu'on appelle le drill. Et ça, c'est ce qui, moi, me garantit que le jour où ça arrive, il n'y a pas de question à se poser, on sait exactement qui doit faire quoi, à quel moment.
Rigueur et discipline sont à bord les maîtres mots. Et la discipline, le capitaine d'armes s'en charge, fusilier marin, le capitaine Mathieu, est un ancien commando marine.
Ça va les gars, à fond? Ça frotte? Ouais, je vois ça.
Là, je vérifie. D'ailleurs, faudra me penser à faire les lits, les gars, s'il vous plaît. Et les poubelles, voilà.
Bah là, déjà, le fait que les gens soient à leur poste, après, moi, je vais pas aller dans le détail vérifier, mais déjà, le fait de les voir frotter, c'est déjà un bon indice. Impeccable. Merci.
C'est un rôle de police.
Je dois veiller à la bonne exécution du règlement à bord en croisant un marin. Voilà, si sa tenue n'est pas correcte, je vais lui signifier. Puis après, s'ils ne comprennent pas, il y a ce qu'on appelle la fiche, qui peuvent avoir des conséquences sur la carrière du marin. Il y a deux façons de procéder, soit par le sursis, soit par le ferme. Ça peut être des tours de consignes où le marin reste bloqué à bord. Il faut aussi réussir à être craint, mais pas dans la tyrannie en fait.
Le maître Deniel est demandé en passerelle.
À bord de la Conite, on dort dans des niches, des cailles, des bannettes, des caissons comme disent les marins, parfois 12 dans la même cabine où l'espace est compté.
Et les meilleurs, c'est ici. Les meilleurs caissons, c'est par là. Parce que vous voyez, hop. Au moins, on a des petits recoins, on peut toujours s'aménager quelque chose. Donc, ça aussi, c'est après sa l'ancienneté. Chacun reprend les meilleurs caissons à l'autre qui vient de partir et ainsi de suite.
À l'arrière du navire, une passe sur l'extérieur. L'équipage s'y croise. Court moment de relâche, c'est la pause cigarette du maître Thomas dans la marine depuis 17 ans.
Ah, c'est ici où tout le monde se raconte les petits quotas, ces petites anecdotes. Voilà.
Si on veut savoir ce qui se passe à bord, il faut fumer quoi.
Ah, c'est exactement. Vous voulez reprendre l'air.
Jour et nuit sont rythmés par les quarts.
Alerte torpille sur tribord, alerte torpille sur tribord. Impact imminent, prendre la mesure de prendre la posture de sauvegarde. Impact dans 5 secondes. 4, 3, 2.
Les entraînements s'enchaînent.
1, impact.
La crainte des navires de surface, c'est ce que l'on ne voit pas. La menace sous-marine. En cas de tir de torpille, il faut les bons réflexes.
Prenez la posture de sauvegarde.
À la posture de sauvegarde, en fait, on vient se plaquer du côté du bord opposé à l'impact. Et en fait, c'est une posture qui va nous permettre de survivre au choc de l'impact. Donc en fait, on fléchit nos genoux et on se met sur la pointe des pieds. C'est pour faire passer le choc à travers le corps. Et c'est important d'ouvrir la bouche pour que l'onde de choc ne vienne pas abîmer les poumons.
Là, on est rentré dans une zone effectivement de menace torpille, donc potentiellement également des voies d'eau, l'envahissement de certains compartiments d'eau.
Lieutenant de vaisseau Philippe, commandant adjoint, équipage.
Les portes étanches vont être fermées et tout le personnel va être préparé pour réagir. Donc on a une organisation qui est mise en place pour ça, une organisation qui est répartie par zone. Tout est divisé en zones, avec des chefs de zone, des moyens personnels, matériels dans chaque zone pour intervenir et pour ramener le bâtiment dans une situation qui puisse durer et combattre malgré les impacts.
Il n'y a à bord qu'un médecin et un infirmier et leurs moyens sont limités. Médecin Pauline.
À partir de deux blessés graves, on est déjà saturé en fait. Mais du coup, c'est ce qu'on apprend, c'est le triage. En fait, on va rassembler les blessés à différents endroits du bateau, au plus court, pour donner les soins urgents. Et ici, c'est le poste où il y aura le médecin en fait, qui va avoir le rôle de centraliser effectivement les blessés, d'avoir un peu une vision du nombre de blessés, de leur gravité. Au combat, on va faire des gestes simples et efficace. Par exemple, une hémorragie active, on va poser un garrot. Par contre, imaginons un patient qui est inconscient, on va le mettre dans la posture latérale de sécurité, des choses simples, mais on ne va pas se lancer dans une intubation ou des gestes de réanimation, parce qu'en fait, on va être face à un afflux saturant, et surtout, actuellement, la situation n'est pas stable, donc on va peut-être avoir d'autres blessés qui vont arriver. On ne va pas forcément se concentrer sur les plus graves, on va plutôt essayer de se concentrer sur ceux qui pourront pouvoir rapidement retourner au combat.
Communication de la passerelle, point de situation. Le potentiel sous-marin présent en zone de danger a été engagé et détruit par la frame Auvergne.
Une ambiance feutrée qui tranche avec celle plus animée des coursives. Près de la passerelle, une salle obscure, nous pénétrons en compagnie du lieutenant de vaisseau Aurélien dans le central opération. C'est le point névralgique de la Conite.
C'est un peu le nerf de la guerre pour nous. L'endroit où sont regroupées toutes les installations qui nous permettent d'avoir les radars, visualisation radar, d'avoir la situation tactique de surface, puis tout ce qui est détection aérienne. On a la partie armement avec les consoles qui nous permettent de pouvoir utiliser le canon de 100 mm, également les tourelles de 20 mm que nous avons, et puis de pouvoir avoir directement la situation globale telle qu'elle se trouve, capté par tous les senseurs du bord, donc les radars essentiellement.
La frégate assure un soutien dans la profondeur à l'opération Chamal contre le terrorisme au Levant. Elle garde un œil sur la marine russe installée dans le port syrien de Tartous et son aviation qui décolle depuis l'Attaquier. Elle vient aussi en appui de la Grèce et de Chypre face à la Turquie qui, après la découverte d'énormes gisements offshore de gaz, conteste régulièrement les limites des eaux territoriales. La Conite doit avoir une connaissance fine de la Méditerranée orientale, la Médor pour les marins. Dans le central opération, le second maître William, adjoint renseignement, garde donc l'œil rivé sur son écran radar.
Nous, le principe, ça va être de pouvoir récupérer en fait toutes les informations qu'on récupère nous à bord de nos différents senseurs. Donc ça va être tout ce qui est radar, même ce qu'on a justement à la gare électronique. On va récupérer tout ça et on va l'utiliser justement pour faire comprendre en fait à l'extérieur, à tous ceux qui ne sont pas sur la zone d'opération, ce qui se passe en fait autour de nous.
Ces derniers jours, la Conite a ainsi observé 3 sous-marins russes Kilo transitant en surface ou encore 2 pétroliers transbordant leur cargaison en pleine mer. Il faut savoir démêler le normal de l'inquiétant.
Comme on maintient une présence quasi permanente dans la zone,
commandant Nicolas Duchesne,
et qu'on connaît vraiment bien la zone, et pour être capable de détecter quelque chose d'intéressant, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est normal, les habitudes. Donc nous, ici, on a nos habitudes, mais les autres ont aussi leurs habitudes. Et en se disant, tiens, bon, ça c'est normal, là, il y a des avions qui s'entraînent à tel endroit, il y a ça tous les jours, je le reconnais. Il dit ça, c'est bizarre, normalement, de temps en temps, j'avais des drones qui allaient par là, là, je les vois plus, ils sont plutôt allés de l'autre côté. Donc, en fait, on a cette connaissance au jour le jour de ce qui se passe. Et quand les choses changent, ou quand j'ai quelque chose qui n'est pas normal, bah, ça attire notre attention, en disant, tiens, ça, c'est bizarre. Ou bien, de se dire, la dernière fois que j'ai vu ça, la dernière fois que j'ai vu des gens patrouiller dans telle zone, le lendemain, il s'est passé tel autre truc. Donc, ils sont en train de préparer quelque chose. Si jamais j'ai des patrouilles dans telle zone, c'est que... potentiellement demain il va y avoir peut-être une frappe à tel endroit ou voilà. On construit un peu notre patrouille sur une base de connaissances initiales du théâtre.
Communication sécurité, interdiction de fumer, piquer, meuler, souder et utiliser tout appareil à venue, zone arrière et zone aviation, avitaillement de l'hélicoptère en cours.
S'ils sont puissants, les radars de la Conite ne sont qu'une partie de l'équation. Il faut visuellement vérifier les pistes, les éco-radars des tangomikes, les navires marchands, et les échos plus discrets des navires militaires. C'est le rôle imparti à l'hélicoptère. Le capitaine Gilles de la flottille 36F est le chef de bord du Panther, prêt à décoller sur la plage arrière de la Conite pour une mission de surveillance maritime.
Là, la mission aujourd'hui, c'est surtout de la connaissance de zone, de l'appréciation autonome de situation. Et du coup, on va reporter tous les contacts qu'on détecte au radar. Et ensuite, un par un, on va aller les identifier en disant celui-là, c'est bien un navire civil, celui-là, c'est un navire militaire. Puis, du coup, c'est observer au quotidien les mouvements des uns et des autres. Donc, ça permet d'avoir une allonge supplémentaire par rapport aux portées des capteurs du bateau.
Alors, l'hélicoptère, c'est un moyen extrêmement puissant et qui, d'ailleurs, fait vraiment partie du bateau. En fait, faut pas imaginer qu'en disant tiens j'ai un bateau et puis je vais rajouter un hélicoptère, le bateau il fonctionne réellement avec une symbiose entre l'hélicoptère et le bateau. Le bateau il a l'avantage de pouvoir être déployé loin, longtemps, rester en mer, observer, patrouiller. Et l'hélicoptère il va me permettre de couvrir dans un temps assez court une assez grande zone et de me reporter tout ce qu'il voit. Je l'envoie plusieurs fois par jour aller couvrir la zone, et ce qui me permet d'avoir une bonne vision de ce qui va arriver et ça m'aide ensuite après derrière moi à réorienter ma patrouille en disant tiens il y a des choses intéressantes qui se passent plutôt par là. Ça nous permet d'avoir des yeux, des oreilles, plus prosaïquement des radars, des échos, voilà, de savoir ce qui se passe sur l'eau, au-dessus de l'eau, dans les airs, et de pouvoir confronter cette réalité à ce que certains de nos compétiteurs veulent faire croire. Donc nous, on apporte une vision objective de ce qu'on voit et ce qui permet à la France d'avoir des informations fiables de première main.
D'ici peu, la Conite rejoindra Toulon. Une frégate multimission se glissera alors dans son sillage pour poursuivre l'observation en Méditerranée orientale.
Petite dédicace à notre boulanger qui a su égayer notre début de journée avec une bonne brioche.
La frégate à Conite, œil de la France en Méditerranée orientale. Un grand reportage de Franck Alexandre, réalisation Pauline Leduc.
Bonne et agréable journée à tous et à toutes.